Les podcasts de l'Institut de France. L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
Aujourd'hui, nous recevons dans notre studio une personne qu'on attendait depuis longtemps. C'est une étoile de la bande dessinée, Grand Prix de la médaille d'Angoulême en 2020 et depuis peu membre de l'Académie des Beaux-Arts. Bonjour Emmanuel Guibert.
Bonjour Marie.
Alors je sais que vous n'êtes pas particulièrement sensible aux récitations de votre palmarès. Alors je vais plutôt parler de ce qui vous fait vraiment vibrer. Vous dessinez et écrivez autant pour les adultes que pour les enfants. Alors du côté des plus grands, on peut citer La Guerre d'Alan ou encore Le Photographe. Mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler aujourd'hui. On va plutôt aller du côté des enfants pour comprendre, pour avoir un petit aperçu des coulisses de fabrication d'une bande dessinée jeunesse avec comme fil conducteur Ariol. Ariol, c'est un petit personnage que vous avez créé avec Marc Boutavant en 99 et qui rencontre depuis un succès étourdissant auprès des enfants. Mais avant de commencer, je ne suis pas certaine que tous nos auditeurs connaissent Ariol. Il y en a peut-être certains, mais pas tous. Alors pour le décrire, Ariol, c'est un petit âne bleu, très attachant. Il a 10 ans, des grosses lunettes ovales, une imagination débordante. Quand il ne joue pas avec son meilleur ami Ramono, il essaye d'impressionner son amoureuse secrète qui s'appelle Pétula. Parfois ça marche, parfois pas. Et quand il sera grand, eh bien, il rêve de devenir le chevalier cheval. Bon, c'est une présentation assez brève, est-ce que j'ai dit l'essentiel ?
Mais oui, et même plus, formidable.
Et alors cet Ariol, il a deux enfants, vous Emmanuel Guibert qui écrivez les histoires, et Marc Boutavant qui dessine toutes ses aventures. Racontez-nous un peu la naissance de ce personnage, comment ça s'est fait ?
Alors Marie, vous venez de faire un lapsus merveilleusement poétique, vous avez dit Ariol a deux enfants.
A deux parents, oulala.
J'aimerais bien que ce soit conservé, parce que on est tout autant les parents que les enfants de nos créations en effet. Alors, il y a 25 ou 26 ans de ça, j'ai été requis pour inventer une série enfantine. Une série, c'est-à-dire du feuilleton, quelque chose qui doit revenir régulièrement dans un support de presse. Donc, on sait que l'histoire dans laquelle on va se lancer doit être suffisamment féconde et fertile pour pouvoir nourrir, a priori, plus d'un épisode. Et évidemment, sans avoir l'idée préconçue que peut-être 25 ans après, on sera toujours là. Ça, on n'ose pas y croire. Mais on se dit qu'en tout état de cause, il faut pêcher dans un vivier qui nous offre des possibilités pour au moins, allez, mettons un an, deux ou trois ans, comme ça, de création continue. Et donc, la question que je me suis posée recevant cette commande, c'était dans quel vivier vais-je aller pêcher ? Et j'avais déjà une série enfantine qui porte évidemment un tout autre titre et un tout autre univers qui s'appelle Sardines de l'espace, que j'avais créé avec mon copain Johan Sfar. Et Sardines était un petit space opéra extraordinairement débridé, loufoque, presque entièrement basé sur le jeu de mots, farci de péripéties et totalement dénué de psychologie. Et cette série Ariol est presque le contre-pied de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que comme je devais mener ces deux séries de front, je me suis dit, quand une idée me viendra, pour être bien certain qu'elle soit pour une série plutôt que pour l'autre, il faut que ces séries soient le jour et la nuit, qu'elles soient vraiment très très différentes. Donc je n'ai pas créé Ariol en prenant le contre-pied complet de Sardines, mais disons que Sardines avait fait naître en moi l'envie de faire tout autre chose, c'est-à-dire une histoire extraordinairement quotidienne, où il se passe somme toute relativement peu de choses, en tout cas des micro-événements qui sont les micro-événements de nos vies à tous, et par contre où la psychologie, où les interactions, les conversations, les rapports humains et la pensée sous tous ses aspects, l'enthousiasme, l'inhibition, pourquoi pas une certaine souffrance, la joie de vivre, etc. Enfin, où tout ça soit en fait le véritable sujet des épisodes.
Les choses de la vie. Donc vous aviez déjà une idée bien précise de ce que vous vouliez. Et vous êtes allé voir Marc Boutavant, vous êtes allé lui proposer d'aller dessiner ce petit Ariol que vous aviez en tête ?
Oui, alors j'ai pas eu beaucoup de chemin à faire parce qu'on partageait le même atelier à l'époque.
Oui, l'atelier des Vosges.
L'atelier des Vosges, qui portait ce nom pour la raison qu'on avait le grand bonheur d'être place des Vosges au numéro 15. Et donc, il était à deux tables de moi, ce qui fait que je lui ai en effet proposé qu'on joigne nos efforts sur cette petite série. Et voilà, il a accepté 25 ans après. Et une vingtaine d'albums plus tard, on continue, l'un et l'autre, à se pencher chaque mois, que le bon Dieu fait, sur les destinées de ce petit personnage et de toute sa généalogie.
Et c'est pour beaucoup votre propre enfance que vous racontez dans les aventures d'Ariol. Vous avez un lien très personnel avec toutes ces histoires. Pourquoi aller demander à quelqu'un d'autre de dessiner ces histoires alors qu'elles vous appartiennent, qu'en plus vous dessinez très bien aussi? Pourquoi être allé voir Marc Boutavant?
D'abord, j'avais pris l'habitude de collaborer et je m'en trouvais très bien. J'aimais beaucoup ça. J'avais pour lui une admiration qui n'a fait que s'accroître, mais qui était déjà très forte. Donc, le désir de collaborer avec lui était aussi assis là-dessus. Et là, l'idée de raconter mon enfance, tout de suite, m'a inspiré que si je la dessinais moi-même, j'aurais à cœur que l'arrière-cour de la maison de ma grand-mère soit rigoureusement comme elle était, avec les pots de bruyère au bon endroit, le banc, le tilleul, etc. Et que je risquais de tomber...
des rotations.
Voilà, dans un catalogue des formes visibles de mon enfance, dans lequel je finirais par me noyer. Et puis je savais en plus que c'est une discipline assez rigoureuse que d'écrire une dizaine de pages par mois en toutes circonstances, ce qu'il faut bien savoir que la presse n'attend pas, donc si on est au fond du lit, si on est en deuil, si on a une migraine mal placée, il faut quand même rendre sa copie.
Oui, parce que Ariol continue aujourd'hui à être publié dans les J'aime lire.
Ariol est pré-publié, comme on dit dans J'aime lire, en effet, et publié ensuite en album, c'est-à-dire que chaque année, au mois de novembre, on regroupe les 12 épisodes parus dans l'année passée et on en fait un recueil.
Alors, en préparant cette émission, Emmanuel Guibert, je me suis rendu compte que vous aviez de nombreux admirateurs ici à l'Institut. Alors, je ne suis pas allée interroger les académiciens, peut-être que j'aurais dû, mais des enfants de quelques collègues qui avaient plein de questions à vous poser sur leur héros préféré, Ariol. Parce qu'il faut quand même donner la parole aux principaux concernés. Par exemple, on a Gustave, 10 ans, qui a remarqué quelque chose sur l'âge d'Ariol.
Bonjour Emmanuel Guibert. Pourquoi ne faites-vous pas grandir Ariol ?
Alors la question de Gustave revient assez souvent, je lui remercie beaucoup de me l'avoir posée, mais ça fait partie des objectifs que je me suis donné. Je me suis dit d'emblée, je vais raconter un an de la vie d'un enfant. Donc en fait, depuis 26 ans, Marc et moi racontons une année de la vie d'Ariol. Et je ne sors pas de cette année, par contre, je fais de constantes allées et venues depuis le mois de juin, mettons, de l'année précédente, au mois de juin de l'année suivante. Et je peux, avec 15 ans d'écart, écrire deux épisodes qui ont une minute d'écart entre eux. C'est-à-dire, c'est une façon de jouer avec le temps qui est très inspirante, amusante. Et puis, comme le temps fait de nous ce qu'il veut, prendre cette petite revanche n'est pas désagréable.
Mais pourquoi avoir choisi cet âge 10 ans, c'est votre âge fétiche ?
Alors, Ariol passe de 9 à 10 ans au cours de cette année, en effet. Donc, c'est son année de cours moyen préparatoire. Et je dois dire que moi, j'ai d'excellents souvenirs de ce moment-là, qui était un moment pourtant de bouleversement. Pour moi, c'était consécutif à un déménagement. Je découvrais une nouvelle vie, des nouveaux camarades, une nouvelle école, etc. Mais pour le meilleur et pour le pire, c'est resté une année... étincelante, le sommet de ma carrière. Et donc, je me suis dit qu'y retourner contractuellement, comme ça, tous les mois, ce serait une bonne idée parce que j'avais déjà fait l'expérience que quand la mémoire se fixe sur une période de notre vie, en fait, elle bouillonne à force de réflexion, à force d'association d'idées. Et ce qui n'était qu'une intuition et maintenant une certitude 25 ans après, c'est sans fin.
Les sources de création sont infinies. Vous avez commencé la série en les publiant dans les J'aime lire en 99. Le succès a été immédiat il y a 25
non.
ans ?
Non, non. Non, je ne sais pas si c'est parce qu'il a des grandes oreilles et des grosses lunettes, mais il a été relativement brimé pendant quelques années. Et là aussi, c'est pas mal parce qu'on constate qu'on est suffisamment attaché à un personnage pour ne pas accorder d'importance, ou exagérément d'importance en tout cas, à la réception qui lui est faite. L'éditeur était prêt à continuer à nous soutenir dans notre effort en nous abritant dans ses colonnes. Donc pour nous, c'était l'essentiel. Et j'étais comme je m'efforce toujours de l'être quand j'écris quelque chose, tourné vers la source du récit plutôt que vers là où il aboutit. Donc, ce qui m'importait, c'était que les idées viennent. Et puis, à force, la ténacité, on dit que c'est une qualité des ânes, mais il a fini par tracer son chemin. La télévision y a sans doute été pour beaucoup, parce qu'évidemment, du jour où il est devenu un dessin animé, on a senti indéniablement la différence. En fait, comme une famille, en quelque sorte, on a... puisque je fais ça toujours en étroite complicité avec Marc Boutavant, on a profité des opportunités que notre enfant talentueux nous ménageait, et on a l'impression maintenant de le suivre un peu, puisqu'il est sollicité par l'extérieur, on nous propose des choses et il nous ouvre des portes qu'on n'imaginait pas qu'il nous ouvrirait.
Et votre enfant talentueux, il grandit avec tous ses amis qui représentent une belle galerie de personnages. Il y a Ramono, on en a déjà parlé, qui est son meilleur ami cochon. Il y a la très belle Pétula, qui est une génisse. Son professeur, Monsieur Blount, un chien assez sérieux.
Ce choix, un épagneul breton.
Pour être précis. Ce choix d'attribution de tel animal à tel personnage, ça a questionné une de vos très fidèles lectrices que vous avez déjà dû rencontrer.
Bonjour Emmanuel Guibert, c'est Michel. Je voudrais savoir pourquoi Ariol, c'est un âne et pas un autre animal.
Alors pourquoi ?
Alors on va répondre évidemment à la question de Michel. Quand je me suis demandé quel serait mon totem à l'orée de la création de cette histoire, j'ai tout de suite pensé à l'âne. J'aime beaucoup les ânes et je trouve que c'est un personnage avec lequel on est passablement injuste parce que, de fait, depuis la nuit des temps, il nous porte sur son dos, il porte les charges les plus lourdes, il renacle de temps en temps, mais... c'est bien le moins dans les circonstances dans lesquelles on l'a fait vivre depuis toujours. Et je l'aime bien esthétiquement, en plus je trouve que c'est un bel animal. Et puis j'y ai vu une autre richesse, c'est que, étant un âne, je me suis dit qu'il serait nécessairement complexé. Et parmi les traits de caractère de ce personnage, je voulais, quelque chose qui est assez largement répandu, le désir d'être un autre. Le désir d'être différent de ce qu'il est. Et donc, c'est pour ça, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il a une admiration sans borne pour un personnage de fiction qui s'appelle le Chevalier Cheval. Il voudrait être un cheval à toute force. Il bassine ses parents en leur disant, en les menaçant de se faire opérer des oreilles quand il sera grand, etc. Et puis, évidemment, dans la cour de récréation, il s'entend dire de temps en temps « bourricot », bonnet d'âne, c'est des âneries, etc. Bref, il souffre du préjugé et c'était évidemment pour moi une clé de lecture et une richesse supplémentaire pour l'animer et pour animer sa vie intérieure.
C'est vrai que l'âne a toujours eu ce rôle ingrat dans la littérature. Il passe un peu pour l'idiot, mais pourtant, il a quand même la cote dans la littérature jeunesse. Je pense à l'âne trop, à Bourriquet dans Winnie l'ourson, l'âne dans Shrek aussi. Le mot Ariol, le prénom Ariol d'ailleurs, ça veut dire âne.
Ça veut dire âne en berbère, en langue berbère, oui.
Ça, c'est du berbère. Est-ce que Ariol parle plusieurs langues parce qu'il a connu énormément de succès en France, j'imagine aussi ailleurs?
Ariol est assez abondamment traduit. Je ne sais pas, on est entre 15 et 20 langues, je crois, maintenant. Il est toujours évidemment frappant de constater que, pour la plupart des enfants qui le découvrent, il est un compatriote, il est un autochtone. Les petits Italiens pensent qu'il est italien, les petits Ukrainiens pensent qu'il est ukrainien.
Il s'appelle Ariol dans toutes les langues.
Alors, il s'appelle plus ou moins Ariol dans toutes les langues, oui. Je sais qu'en Chine, il s'appelle Aliao, ce qui ne somme toute pas si éloigné. Et je me suis laissé dire par un traducteur qu'il y avait dans Aliao la notion d'unicité, en fonction sans doute de l'écriture et de la prononciation, comme c'est toujours le cas en chinois. Et ça allait bien à cet enfant unique. Il est évident qu'en allant chercher du côté de l'infinitésimal, du côté des toutes petites aventures domestiques qui nous arrivent à chacun, on a de fortes chances de ressembler à beaucoup de gens. Et on le constate quand on voyage, quand on discute, quand on reçoit des courriers de lecteurs en dehors de la sphère francophone, c'est que pour eux, c'est tout simplement un voisin, quelqu'un du palier ou de la maison d'à côté.
En tout cas, en français, Ariole, ça rime avec rigole. On rit beaucoup, les adultes, presque autant que les enfants. Comment vous faites pour faire concorder ces deux rires qui, a priori, ne répondent pas toujours aux mêmes blagues? Ça, c'est fort.
Je voulais qu'Ariole raconte la vie dans un maximum d'aspects. Je voulais que le regard porté sur tout ça soit toujours un regard détendant, dédramatisant et au final, drôle. Voilà. Donc, si tout va bien, quand on referme un album ou ne serait-ce qu'un épisode d'Ariole, on est censé avoir rigolé, mais pas toujours à partir ou à propos de choses qui sont franchement amusantes. C'est pas un burlesque à tout craint. J'essaie même de temps en temps de varier les émotions, ne serait-ce que pour mettre le rire en valeur. Mais il est vrai que la tonalité, c'est avant tout celle du rire. Ouais. Mmh,
toujours. Alors, 25 ans, vous en avez écrit des histoires. Ariole, c'est plus de 25 albums, plus de 300 histoires juste dans les albums. Il faut beaucoup, beaucoup d'imagination pour créer toutes ces histoires. Et ça a questionné un de vos lecteurs qui s'appelle Simon, qui a 6 ans.
Comment fais-tu à inventer toutes ces histoires?
Vaste question.
Alors, je pense que si j'observais Simon au jour le jour, je me rendrais compte que dans sa chambre d'enfant, il en invente en fait beaucoup plus que moi dans ma vie de scénariste. Je crois que l'invention est un attribut universel, on l'a tous, et singulièrement les enfants. On fait tout ça quand on s'amuse, comme on dit, quand on joue. Donc moi, au fond, je ne fais que continuer à jouer. Voilà, dans ma chambre d'enfant. C'est d'ailleurs un moteur, une espèce d'ambition que j'ai toujours eue. J'ai tellement aimé le copinage, la récré. Et je pense que ça fait naître une sorte d'ambition qui consiste à se dire « Mais pourquoi arrêter ça? Pourquoi ne pas continuer? Pourquoi ne pas trouver à s'insérer dans la vie adulte en persistant dans le jeu, en persistant dans l'amusement ?» Alors, on parle beaucoup d'imagination. Je n'ai pas l'impression d'en avoir tant que ça, somme toute. J'ai surtout l'impression que je retiens les choses et que certaines choses qu'on considère peut-être comme quantité négligeable dans notre existence, moi, je m'y intéresse et j'essaye de les monter en lampe, si j'ose dire, de leur donner une forme pour les présenter de nouveau sous le nez de mes lecteurs qui, à ce moment-là, les ayant négligées dans leur vie, les trouvent amusantes quand ils les lisent. Se disent « Mais c'est vrai, au fond, on fait ça. On n'y avait pas pensé plus que ça. Mais somme toute, c'est amusant. Et puis, c'est entre nous une source de complicité. On n'y avait jamais pensé, mais c'est comme ça. » Et voilà, donc plus que l'imagination, je pense que c'est plutôt un cocktail d'observation et de relative distance que l'humour autorise pour au fond assembler des faits qui sont des faits quotidiens et très largement partagés par nous.
Alors pourquoi avoir choisi le format de la BD, de la bande dessinée, plutôt que le roman pour raconter eh bien, les histoires d'Ariole et aussi tous les récits jeunesse que vous écrivez?
Comme on peut dans une bande dessinée montrer en même temps, et je crois d'ailleurs que c'est peut-être au fond le seul mode d'expression où on peut faire ça, on peut montrer en même temps ce qu'un personnage dit et ce qu'un personnage pense. On peut avoir deux bulles côte à côte, l'une est une bulle de parole, l'autre est une bulle de pensée, et on peut montrer à quel point les bulles de pensée contredisent complètement les bulles de parole. On peut montrer dans un même mouvement ce qu'on dit et ce qu'on dissimule. Je sais que avec mes petits lecteurs, je me rends compte en discutant avec eux qu'on n'est jamais assez subtil avec les enfants, en fait. Quelqu'un qui écrirait pour les enfants en retenant ses chevaux et en se disant « ils vont pas comprendre ceci, ils vont pas comprendre cela », et quelqu'un qui se priverait d'une discussion avec des enfants qui, en règle générale, comprennent beaucoup plus ce qu'on croit, non seulement ce qu'on leur propose dans nos livres, mais aussi ce qu'on vit avec eux au jour le jour. Et je crois qu'il faut vraiment faire fond, avoir confiance en cette subtilité des enfants, en cette curiosité qu'ils ont pour les récits, en ce désir de savoir qui les caractérise, puisqu'un enfant, c'est toujours pourquoi, comment, la preuve, hein, les questions que me posent les petits lecteurs que je viens d'entendre au casque, là, c'est sur cette curiosité-là qu'on peut faire fond pour les nourrir toujours plus de détails et pourquoi pas de savoir. Parce que, mine de rien, quelque chose qui est important aussi pour moi dans Ariole, répondant en cela à l'expérience que j'ai faite enfant, du magistère que la bande dessinée a exercé sur moi en m'apprenant énormément de choses de l'ordre de l'histoire, de l'ordre de toutes sortes de savoirs, je farcis en fait Ariole, de toutes sortes de détails dont je sais que l'enfant va les avaler, parfois d'ailleurs évidemment sans avoir de clé sur de quoi il s'agit. Mais je compte sur une chose qui m'est arrivée à de nombreuses reprises dans ma vie, c'est l'effet d'épiphanie formidable. Le jour où, parfois 20, 40, 50, 60 ans après avoir lu une histoire enfantine, on se dit « Ah, mais c'était donc ça qu'il avait voulu dire !» Et tout d'un coup, on fait le raccord entre ce qu'on a lu enfant et ce qu'on apprend, ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, il y a de très, très nombreux épisodes où je dépose très sciemment toutes sortes de pépites culturelles que je considère comme telles, en me disant elles feront nécessairement chez l'un ou l'autre de mes lecteurs un jour écho.
Donc vous ne censurez pas sur les thèmes à aborder, mais tout de même je me demandais, quand vous écrivez les scénarios, est-ce que le choix des mots vous donne parfois du fil à retordre? Est-ce que vous vous dites, ah, tel mot ou telle formulation, je ne vais pas l'utiliser parce que ça sera trop compliqué? Ou alors tout vient naturellement et la question ne se pose même pas?
Ah, ce serait trop beau. Ce serait trop beau que tout vienne naturellement. Non, j'en bave beaucoup à écrire mes scénarios. Généralement, il y en a 3 ou 4 versions pour un. Et je ne m'attends pas à autre chose, d'abord parce que je n'ai jamais écrit facilement, et ensuite parce que je pense qu'une écriture qui coule de source, comme vous dites, est à ce prix. C'est-à-dire que ça se travaille, ça s'améliore constamment, ça se rabote, ça s'ajuste en permanence. Et même si ce n'est pas toujours amusant, une fois un épisode qu'on pensait fini, de se rendre compte qu'il est perfectible et qu'il faut replonger dedans, c'est quand même une immense satisfaction, à la place d'une expression approximative, de mettre une expression qu'on juge définitive dans sa forme. C'est le plaisir de l'écrivain.
Et à contrario, il y a des mots aussi propres à l'univers d'Ariol que vos lecteurs connaissent par cœur. Par exemple, Ariol, il adore les bubbles. Qu'est-ce que c'est, les bubbles?
Ce sont des petits chewing-gums qu'il va chercher chez la boulangère Madame Pompadour en face de l'école en sortant le soir de classe. Oui, un des plaisirs aussi de la fiction, c'est comme on réinvente un monde, on réinvente évidemment des marques, on réinvente des noms de rue, on réinvente des noms de ville, on réinvente une géographie, on réinvente un monde qui ressemble très fort au nôtre, mais dont les mots sont évidemment des allusions décalées à des marques, des noms de villes, etc., du vrai monde. Donc la création de ce monde parallèle, c'est évidemment extrêmement jouissif, et c'est le lieu d'un truc que j'aime de façon très coupable, qui sont bien sûr les calembours, les jeux de mots, etc. Mais c'est là.
Il adore être en week-end pour faire des choses coucoule. Est-ce que vous savez si ces mots sont repris dans les cours de récréation?
Alors je me le suis laissé dire, ouais. Et on les retrouve dans les courriers qu'on reçoit, etc.
Ah oui. Ouais. Vous allez d'ailleurs dans les cours de récréation pour observer, pour vous tenir à la page de ce qui se passe chez les enfants de 10 ans, ou vous n'en avez pas besoin?
Un des grands bonheurs qui a découlé de cette décision en fait, de raconter une histoire qui se passe en classe de CM1, c'est que je vis en fait très régulièrement avec des enfants. J'en rencontre des masses, certains deviennent des amis, mais de rencontres très frappantes que je n'ai pas oubliées, avec des lecteurs qui m'ont fait des sortes de fiches de lecture rêvées sur mon travail. Donc ça donne lieu à vraiment de longues discussions, et des petits garçons, des petites filles comme ça qui me révèlent des aspects de mon boulot tels qu'ils l'ont perçu, reçu, qui sont d'abord délicieuses à entendre. On se fait l'effet d'être ce qu'on espère être, une sorte de Père Noël qui leur porte des vitamines et des choses à la fois agréables et pourquoi pas utiles dans l'existence. Mais on est toujours frappé, encore une fois, de leur pénétration psychologique, de la faculté qu'ils ont à percer les intentions des personnages et surtout à s'intéresser viscéralement à leur destin.
Je me demandais, qu'est-ce qui a changé entre les premiers volumes d'Ariol et les derniers? Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans les dessins, dans le caractère d'Ariol, dans les thèmes abordés?
Alors, vous le constaterez, il y a indéniablement une évolution dans les dessins, ça c'est normal. Des auteurs qui créent un personnage ne le connaissent pas. Donc, animer un personnage, c'est faire toujours plus connaissance avec lui. Aujourd'hui, j'en sais évidemment beaucoup plus long sur Ariol qu'il y a 25 ans, et c'est le cas aussi de Marc Boutavant, camarade dessinateur. Mais On ne peut pas à proprement parler dire qu'il évolue dans la mesure où il reste dans, ce, dans, dans cette phase spatio-temporelle de son enfance. Mais moi, je le vois aborder petit à petit des questionnements et vivre des moments qu'il n'avait pas vécu auparavant, pour la raison que dans mon cahier des charges, il y a le fait de ne pas repasser rigoureusement deux fois par le même chemin. Donc, même si je raconte ce qu'il y a de répétitif dans nos vies, j'essaie toujours d'y introduire une vision, un événement qui rend l'anecdote du coucher, je ne sais pas, par exemple, tous les soirs, on voit régulièrement Ariol se coucher, ses parents lui dire bonsoir, etc. dans les histoires. Mais à chaque fois, c'est dans des circonstances différentes parce que c'est un jour différent, c'est un état d'âme différent.
Alors, comme tout le monde, Ariol, eh ben, il a des rêves qui lui sont chers. Il a aussi des idoles, des personnages qu'il admire, notamment un en particulier qui le fascine énormément.
Bonjour Emmanuel Guibert, je m'appelle Joseph. J'aimerais savoir pourquoi Ariol aime-t-il tant le chevalier cheval.
Plus tard, il veut devenir lui aussi
chevalier. Oui, 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 la question de Joseph, elle est belle. On aimerait la poser à Joseph. On aimerait lui dire quelles sont les séries que tu adores et est-ce que tu t'identifies comme ça à certains personnages. Et Ariol, bon... Ariol me ressemble en ça et ressemble à tellement, j'imagine, de petites filles et de petits garçons que, en effet, à l'âge de 9 ans, il se précipite au sortir de l'école pour, parce qu'il a envie de voir un feuilleton, parce qu'il a envie de passer chez le libraire pour voir si une nouveauté est parue, parce que, voilà, j'avais le cœur à 120 quand j'allais chercher dans ma boîte aux lettres toutes les semaines le Spirou, le Pif Gadget auquel mon père m'avait obligeamment abonné. Et j'oublie pas ça, j'oublie pas... J'oublie pas cette école du désir, en fait, où quand on est petit, on a l'impression qu'on connaît l'adresse du bonheur, en fait, qu'il y a un secteur de notre vie qui est tout entier dévolu à notre bon plaisir. Et en même temps, on ne sait pas quelle forme il va prendre. C'est ce qu'on attend aussi des auteurs qu'on aime, c'est qu'ils nous ménagent des surprises à chaque fois, qu'on aille un peu plus loin dans la compréhension de ce qu'on lit. Donc, ce partenariat... qui se rencontre au moment où le personnage ou le livre aboutit entre les mains de l'enfant, mais qui est en fait un partenariat entre l'auteur et l'enfant. C'est un partenariat extraordinaire parce que ça permet à l'un et à l'autre en fait de déteindre un peu l'un sur l'autre. L'enfant acquiert une sorte de maturité au contact de ce que l'adulte lui raconte et l'adulte maintient une immense part de jouvence en lui en sachant qu'il s'adresse à parmi d'autres à des lecteurs enfantins.
Alors vous parlez de désir, de plaisir, mais comme tous les enfants, chez tous les enfants, il y a aussi des choses qui les tracassent. Ça, c'est Aîné qui en parle le mieux. On va écouter ce qu'il dit.
Bonjour Emmanuel Guibert, c'est Aîné. Pourquoi Ariol aime Pétula et que Pétula n'aime pas Ariol ?
L'amour a priori non réciproque, ça c'est souci de première importance.
Inutile de vous dire que celle-là, je l'ai entendue plusieurs fois, la question d'Aîné. Je disais tout à l'heure que Ariol est plus racinien que cornélien, c'est-à-dire qu'il prétend montrer l'existence telle qu'elle est plutôt que telle qu'elle devrait être. Et donc, je fais un tableau de la vie qui n'est pas rose, qui ne scelle pas des aspects y compris assez dramatiques. Ariol est un monde où on meurt, Ariol est un monde où il y a des deuils, Ariol est un monde où il y a des cimetières, où on se balade... Donc, il y a peu d'événements dans Ariol auxquels je n'ai pas fait allusion. J'ai parlé des pandémies. C'est marrant parce que un an et demi avant le Covid, j'avais mis le mot confinement dans la bande dessinée pour faire comprendre ce dont il s'agissait. Et on n'invente jamais rien, mais voilà, c'était amusant. Et donc, y a évidemment un questionnement auquel on est confrontés tous dès qu'on met le pied dans la communauté humaine et qu'on entre dans la cour de récréation, c'est cette espèce d'attirance magnétique et invraisemblable qu'on a pour certains êtres. Où est-ce qu'on apprend ça ? Ça ne s'apprend pas, c'est de l'ordre de l'instinct. Ça s'impose à nous et ce n'est pas toujours réciproque. Et je crois qu'on est tous, tôt ou tard, voués à le constater dans nos existences. Et ça me paraissait évidemment un sujet à aborder, d'autant plus qu'il y a dans la classe des triangles amoureux, Ariol n'est pas aimé de celle qu'il aime. Par contre, il est aimé d'une petite fille qu'il aime bien, voilà, qu'il aime bien, mais sans plus. Donc, ça me paraissait évidemment un sujet à la fois éternel et en même temps toujours fructueux à à traiter. La preuve en est, c'est qu'Aîné pose la question, ça le turlupine, ça nous turlupine tous.
Oui, beaucoup de vos lecteurs, et d'ailleurs je crois que vous allez en décevoir un. C'est la toute dernière question qu'on a, vous allez l'écouter.
Est-ce que Pétula, à la fin, va tomber amoureuse d'Ariol ?
Alors, c'est pas ce que vous aviez l'air de dire, mais peut-être que...
On n'en sait rien. Hein.
Vous ne direz rien.
Je suis le premier à ne pas le savoir. Les enfants me posent parfois des questions, me posent souvent des questions auxquelles je prétends n'avoir pas de réponse parce que j'ai affaire à des êtres qui sont ambivalents, qui sont changeants. J'y tiens. Ils ont évidemment des traits de caractère et parfois assez forts, assez importants et qui prennent de la place, mais ils peuvent se révéler tout d'un coup, autres que ce qu'ils sont, parce que je constate qu'on est multiples et qu'on abrite en soi toutes sortes de personnalités diverses qui sont à l'origine de nos tiraillements, bien sûr, internes, et il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas ainsi dans les... pour ce qui concerne les enfants. Cela dit, il y a quelques épisodes où Ariol se rapproche de ce Graal et on sent qu'il a une bonne nature, c'est-à-dire qu'il arrive à s'en faire une raison de cette relation dont il aimerait bien évidemment qu'elle soit plus étroite. Mais je me rappelle d'un épisode où il dit « Pour l'instant, elle m'aime 2 sur 5. C'est pas rien, c'est pas autant que je le souhaiterais, mais c'est quand même 2 sur 5. »
Je vois que l'heure tourne et je vais devoir vous laisser parce que vous allez assister à la séance de l'Académie des Beaux-Arts.
Je vais me faire disputer par Monsieur Leblou.
Vous avez je peux poser une dernière question. Est-ce que vous rencontrez une petite appréhension d'oublier les choses que vous vivez, qui vous arrivent dans la vie ? Quand c'est consigné, c'est sauvé, vous dites ?
Ah oui, c'est certainement plus qu'une appréhension. Je pense que c'est une angoisse, mais elle est motrice, elle fait bosser. Mais c'est certainement l'obsession de la disparition, du lessivage constant des êtres, des choses, des changements auxquels on est voué par notre vieillissement, par les métamorphoses et les disparitions auxquelles on est confronté. C'est vrai qu'il y a un côté rassérénant à consigner. C'est absurde, c'est chimérique. Ça consiste à avoir des petits pense-bêtes comme ça en poche qu'on peut éventuellement partager avec d'autres si on les fait imprimer. Mais tout ça est prodigieusement fragile. Et néanmoins, c'est très agissant. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres chimériques et que quand on soigne nos chimères, au fond, on soigne peut-être la part la plus précieuse qui est la nôtre.
Merci beaucoup Emmanuel Guibert pour cette fin presque méditative. On peut retrouver tous les albums d'Ariol en librairie. Je cite les deux derniers, Ariol chante comme un rossignol et Le cheval à bascule aux éditions Bayard Jeunesse. 2025, on peut s'attendre à un nouvel album.
Bien sûr, au mois de novembre.
Au mois de novembre prochain, il faudra patienter un petit peu. Merci beaucoup pour votre
temps. Merci Marie.
Au revoir.
Au revoir.